que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, au sein de l'hôpital public, les urgences sont souvent perçues comme le meilleur symbole de l'universalité de l'accès aux soins. Mais dans le même temps, les professionnels ne cessent d'alerter sur une saturation croissante des services qui peut mettre en danger la vie des patients. En banlieue parisienne, le centre hospitalier intercommunal de Créteil tente de trouver des solutions pour désengorger ces urgences. Quand soignants et patients auscultent les urgences, grand reportage, signé Laura Martel.
Bien sûr, je vous ai vu.
Les esprits s'échauffent devant le guichet d'admission du CHIC, le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Pourtant, le gros de l'épidémie de grippe est passé et en ce premier jour de vacances scolaires, on est loin des pics d'affluence. Dans la salle d'attente, Gérard patiente résigné.
J'ai accompagné un élément de la famille suite à une chute. Il nous a pris en charge à l'administration, il était 14h15 et je suis toujours là. Il est 17h50. On fait beaucoup de patience. J'ai un âge qui fait que j'ai connu les urgences à une autre époque. Les urgences, il y a 40-50 ans, on n'attendait pas 2 heures comme ça. Qu'est-ce que je dis ? 3 heures. Les urgences, on a été pris dans le quart d'heure qui suivait. C'était réglé, en 1 heure de temps, c'était plié. Aujourd'hui, 3h30 plus tard, on est là.
Avec 120 à 125 000 passages par an, le CHIC est le plus important service d'urgence du Val-de-Marne. Et chaque année, le nombre de patients augmente, explique son directeur Stéphane Pardoux.
Au centre hospitalier intercommunal de Créteil, comme chez nos voisins et amis de l'hôpital Henri Mondor, comme partout en France, l'activité aux urgences ne cesse d'augmenter. Sur 2018, le volume de passages aux urgences adultes, ne prenons que l'adulte, a augmenté de 5%. En moyenne, nous sommes systématiquement sur une tendance d'évolution de l'ordre de 3 à 4% au global. Chaque année, nous sommes sur une courbe ascendante du volume de passages aux urgences. Chaque année. Je pense que cette augmentation du passage aux urgences est d'abord à mettre sur le compte d'une diminution de l'offre de soins de premier recours, donc des médecins généralistes implantés en ville, puisque cette diminution, elle se voit dans les chiffres, elle est réelle à Créteil, et elle amène mécaniquement nos concitoyens qui ont besoin d'un premier examen médical assez rapide à se tourner vers nos services d'urgence.
Si le phénomène de désertification médicale est couramment associé aux zones rurales, on sait moins qu'il touche aussi la périphérie parisienne. Aujourd'hui, les 3/4 de la population d'Île-de-France habitent dans une zone où l'offre médicale n'est pas satisfaisante, selon l'Agence régionale de la santé. Dans le Val-de-Marne, on compte 67 médecins généralistes pour 100 000 habitants, c'est moins que la moyenne régionale de 75 médecins. Daniel habite Créteil depuis 30 ans, il constate cette pénurie au quotidien.
Ça devient très difficile d'avoir accès aux médecins traitants, aux médecins généralistes. Il y en a de moins en moins, ils sont moins disponibles. Et alors, on ne parle pas des ophtalmos, les spécialistes, c'est encore autre chose. Mais disons que la médecine courante, le dispensaire d'autrefois, devrait revoir le jour, parce que c'est un moyen facile d'accès pour ne pas encombrer les urgences. Il n'y a plus de médecins qui se déplacent à domicile. De toute façon, la seule solution, soit vous avez un rendez-vous, mais pas un rendez-vous, vous l'avez dans les 48 heures, voire la semaine. Donc c'est la rareté médicale fait que les gens vont aux urgences. Pour le moindre rhume, on va aux urgences. Donc, c'est une catastrophe.
La crise devrait s'accentuer puisque dans 5 ans, la moitié des généralistes de la région sera en âge de partir à la retraite. Et pour chaque départ, ce sont 1200 patients qui se retrouvent sans médecin. Derrière les admissions nous attend Laetitia. Elle est infirmière référente, une fonction créée en novembre dernier pour mieux amortir les variations d'affluence. Son rôle, renforcer les postes de soins en cas de surcharge et soulager ses collègues des questions logistiques.
Tous patients qui arrivent aux urgences sont vus par une aide-soignante qui est trop près tri et ensuite ils sont appelés par une infirmière qui, elle, avec les constantes, les antécédents, vont faire un tri pour classer les gens du plus urgent au moins urgent. Et on explique aux patients qu'il y a des fois des heures d'attente et du coup, on a des fois ils sont contents, des fois ils sont pas contents. C'est à nous après de gérer l'agressivité des gens. Donc là, devant, c'est comme ça se passe. Et derrière, il y a un sas réservé pour pompiers, ambulances, SAMU. Donc eux, ils arrivent, comme vous pouvez le voir en un certain instant, ils arrivent, ils déposent les patients. Et une fois que les choses sont faites et validées par l'infirmière, ils vont inscrire, ils vont les tri. Si jamais il y a vraiment une grosse urgence, on a une salle dédiée à ça qui s'appelle la déchocage. Dans ces cas-là, soit nous, on pousse directement le patient ou la patiente dans cette salle-là. On a tous des frissettes, on appelle l'infirmière et le médecin de garde. Ils viennent dans la salle, ils s'occupent déjà du patient qui est très très urgent. Si jamais c'est une urgence, pas vitale, mais relative, on appelle quand même les filles en secteur pour dire attention, il y a une dame, faut pas qu'elle attende trop longtemps, ou un monsieur. Et pareil, on communique comme ça toute la journée. Donc en plus de gérer l'agressivité, de gérer le flux, il faut aussi qu'on transmette la formation.
Et vous parlez d'agressivité, j'imagine, c'est parce que le cas est relativement fréquent.
Moi, ça fait 10 ans que je suis là, et d'année en année, plus ça va, plus l'agressivité augmente. C'est impressionnant. Après, il y a aussi une mauvaise information, je pense, parce que du coup, on oriente beaucoup, beaucoup les patients, on fait des urgences, et quand si votre médecin n'est pas là, et le problème, c'est que ben, le service d'urgence, ça sert pas qu'à ça. Et je pense que quand on arrive aux urgences et que les patients attendent 5 heures, je peux comprendre aussi un peu leur énervement. Je pense que moi, si jamais je suis de l'autre côté, au bout de 3 heures, je perds des patients, faut être honnête. Mais du coup, il faut aussi que les gens comprennent que bah, malheureusement, les urgences, c'est que pour les patients, entre guillemets, avec un état grave, et que tout patient grave passe toujours devant les consultations. Donc ça peut amener à 5h, 6h, voire des fois 7h d'attente dans les grosses influences.
Et ça, ce sont des délais qui sont stables ou...
Ça a augmenté au fil des années. Quand j'ai commencé, on avait beaucoup moins de passages, on était beaucoup moins en termes d'infirmières. Là, on a beaucoup plus de passages, on a augmenté en termes d'infirmières, mais en fin de compte, on est toujours un nombre réduit par rapport aux passages. Ce qu'on vit, on a beau augmenter le personnel, c'est pas encore assez. Mais on fait quand même 70% de consultations. Hein. Je veux dire la vérité, 70 à 80% de consultations.
80% de gens qui finalement ne relèvent pas d'une urgence proprement dite.
C'est ça. C'est de la consultation, ça peut aller du petit bouton, la fièvre depuis 2 jours, de la toux. Voilà, toutes ces petites choses qui ne sont pas forcément utiles de venir aux urgences, mais les patients, il y a tellement une pénurie de médecins aussi en ville que plus ça va, plus le système de médecine est compliqué en France. On a un très bon système, attention, on est très bien lotis en France. Mais là, pour le coup, la pénurie de médecins en ville, tous les patients viennent chez nous.
Si l'engorgement des urgences tient beaucoup au dysfonctionnement de la médecine de ville, pour Stéphane Pardoux, il est aussi lié, paradoxalement, à l'efficacité des urgences et au principe qui fait leur valeur, un accès aux soins ouvert à tous.
Le fait que les urgences hospitalières publiques soient identifiées comme un lieu de gratuité des soins complets amène de façon évidente une grande partie de la population à préférer se rendre aux urgences dans la mesure où l'avance de frais peut y être totale. Alors en vrai, les urgences ne sont pas gratuites, mais en tout cas, c'est vrai que notre mission première absolue étant de soigner, cette question de l'accès financier aux soins, pour nous, elle est réelle et nous assurons les ouvertures de droits pour que les patients puissent être remboursés ou que nous-mêmes puissions être payés par l'assurance maladie. Mais c'est vrai que le processus y est peut-être un peu plus simple que dans d'autres structures. Et puis, là, je vous livre un sentiment peut-être plus personnel, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont pris le pli des urgences dans toutes les catégories socio-économiques du pays. Je pense qu'il y a des arbitrages désormais d'un rapport efficacité-temps entre avoir recours à un parcours de soins en ville qui amène à devoir aller voir son médecin généraliste, puis de demander des examens complémentaires, puis un examen radiologique, c'est-à-dire un processus de soins qui va mobiliser un temps important, là où finalement, aux urgences, certes, vous allez attendre, mais à la fin, vous aurez la totalité de votre parcours de soins. Et je pense que ça, dans un rapport au temps et un rapport à l'organisation personnelle, beaucoup de Français, y compris ceux pour lesquels l'avance de frais n'est pas forcément une question, aujourd'hui préfèrent faire le choix des urgences.
Ouais, c'est plus simple.
Je fais direct la verte avec tout ça.
Au CHIC, tous les moyens sont bons pour tenter de s'adapter à l'afflux croissant de patients avec des pics à plus de 200 passages par jour. Une réorganisation constante des services d'abord. En plus des infirmières référentes, une régulatrice consacre l'essentiel de son temps à trouver des lits d'hospitalisation ou transférer les patients. Le recrutement aussi. 12 infirmières et aides-soignantes ont été embauchées en 2018. Mais avec un coût de plus de 500 000 euros, ce type d'effort ne peut être que ponctuel et donc forcément insuffisant face à l'augmentation chronique des passages, explique Stéphane Pardoux. Le CHIC a donc décidé d'expérimenter en se tournant vers la télémédecine en partenariat avec une société privée.
La société Livy nous a proposé de travailler sur un dispositif un peu original d'un centre de téléconsultation à la fois digital et physique qui serait installé dans l'hôpital et qui permettrait pour les patients qui le souhaitent de s'y rendre et d'avoir une consultation avec un médecin qui n'est pas présent sur site, mais qu'on voit sur une tablette dans un box de consultation. Il y a également, dans ce centre hybride, et c'est pour ça qu'on emploie ce mot-là, il y a des infirmières qui vont déjà faire les premières prises de constante, ce qui est fait par une infirmière d'accueil aux urgences, et qui vont également vérifier si vous êtes à l'aise avec l'environnement digital pour avoir un échange approfondi avec le médecin. On a fait des temps d'échange avec nos médecins urgentistes, et très vite, la réaction médicale a été « on voit une telle augmentation permanente que essayons ». Et si ça répond à une partie des demandes de soins de premier recours sans passer par les urgences, et si ça pallie pour partie à la diminution du nombre de médecins généralistes, pourquoi pas? Donc on est sur une expérimentation dont je ne sais pas si elle va fonctionner. Je ne sais pas si les Français qui sont autour de nous dans le Val-de-Marne vont avoir envie d'avoir recours à ce système. Ce que je sais, c'est que dans d'autres pays européens, la télémédecine, la téléconsultation s'est implantée de façon massive. En Suède, on dit, je crois que 600 000 consultations, de 3 à 4% je crois de l'activité de consultation se fait en télémédecine. Donc de façon factuelle, technologique, on sait qu'aujourd'hui, il est possible de faire du diagnostic médical à distance.
Le jour de notre visite, le centre de téléconsultation est resté vide. Pas de quoi toutefois en tirer une conclusion sur l'intérêt des patients pour l'initiative, puisque l'information publique venait de commencer. Pour la responsable des urgences adultes, le docteur Flipoto, la télémédecine fait en tout cas partie des pistes à explorer pour diminuer la pression sur les urgences.
C'est des pistes d'aval, c'est-à-dire qu'on puisse créer des consultations de médecine, qu'elles soient télémédecine ou médecine classique, dans les services d'urgence ou proches des services d'urgence, qui soient ouvertes au moins jusqu'à minuit. Et la deuxième piste, c'est de réguler l'amont, donc soit par des propositions qui avaient déjà été faites, c'est-à-dire que les gens puissent appeler un centre 15 ou l'équivalent pour pouvoir avoir un numéro ou une autorisation de se présenter aux urgences, qui évitera les gens qui viennent pour rien, enfin voilà, qui viennent pour des motifs, et à condition de pouvoir développer de la médecine de ville d'une manière différente, c'est-à-dire de développer l'équivalent des SOS médecins, développer des SAMI, développer ça. Et puis, on a une augmentation assez considérable du nombre de patients très âgés qui viennent de maisons de retraite, parce que simplement, il n'y a pas d'infirmière dans les maisons de retraite la nuit, et il n'y en a pas le week-end. Et je pense que là, ça va être à nous politiques de gérer ça, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une infirmière ou un médecin attaché à plusieurs maisons de retraite pour éviter que ces gens arrivent dans les urgences pour mourir. Ce n'est pas du tout le lieu.
Il y a eu une tribune de plusieurs chefs d'urgentistes il n'y a pas longtemps qui alertait sur cette saturation des urgences. Est-ce que vous partagez le sentiment que les patients peuvent courir plus de risques de mortalité face au travail auquel vous êtes confronté?
Oui, bien sûr. Bien sûr, quand vous avez 9, 10, 25 patients qui attendent au moins d'être inscrits, vous pouvez, au milieu de ces patients, avoir un patient grave qui se dégrade dans sa salle d'attente, au point que nous, ici, on a fait une organisation face à ça, compte tenu de ce qui s'était passé dans un autre service. Dans les périodes de grande, grande affluence, on a tour de régulier qui est tracé de tous les patients qui sont en salle d'attente, parce qu'on peut avoir des patients qui se dégradent alors qu'ils sont venus pour des choses pas forcément très graves, et voilà.
Pour les détecter,
oui.
C'est la dame en champagne qui est au centre. On l'a juste déshabillée, on lui a fait le CG, mais pas de geste invasif.
J'ai prévenu les pieds des portes, faut que tu vois Catherine, je pense que les portes sont taquées pour prendre. Oui, mais ça, c'est pas mal.
Bah ouais, elle est pareil, morée.
Ah, pareil. Oui, mais elle est comment?
Elle est pas très bien.
En parcourant les urgences du Chic, c'est une évidence. On y voit effectivement beaucoup de personnes en fin de vie. Nous suivons Alima, infirmière, au chevet d'un octogénaire.
Monsieur! Ah, vous dormez là? Ça va mieux? Le médicament, il agit bien là, hein? J'ai pas compris, monsieur.
Merci beaucoup.
Mais de rien, c'est normal, monsieur. Allez, on va aller à côté. Et on va vous faire passer un examen, vous allez passer une échographie. Allez, on y va. Voilà, monsieur, à tout à l'heure. Il faut peut-être vous voir.
C'est courant de devoir mettre des gens dans les couloirs, du coup.
Ouais. On n'a pas assez de place. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont sur les brancards, et malheureusement, quand on n'a pas le choix, on est obligé de laisser dans les couloirs. Mais on fait en sorte qu'ils soient quand même bien installés, à l'aise quand même.
Votre salle est pleine, on voit beaucoup de personnes âgées. Ça, en revanche, c'est...
Ça, maintenant, c'est devenu récurrent toute l'année. Pendant un moment, on avait des périodes. C'était plus l'été, ensuite c'était plus l'hiver. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, on en voit beaucoup, beaucoup. Bah, parce qu'il n'y a pas assez d'institutions à l'extérieur. Voilà, c'est difficile.
Pas sur,
elles sont pas forcément toutes médicalisées. Il faut bien les placer quelque part, hein, ces personnes-là. C'est les urgences. Ils viennent en priorité aux urgences. Et après, ils sont très souvent hospitalisés dans les services adaptés.
Et ça, j'imagine, pour vous, c'est compliqué.
C'est vrai qu'on ne peut pas rester constamment auprès d'eux, répondre à toutes leurs demandes, malheureusement. On essaye de faire au maximum et de faire au mieux.
Plus encore que la surcharge de travail, ce sentiment de ne pas pouvoir offrir le meilleur accompagnement possible aux patients génère un mal-être croissant chez les soignants, explique Déborah, une autre infirmière référente.
On a une frustration par rapport à la qualité des soins, en fait, je pense. On fait le maximum pour que le patient soit bien, mais quand il y a un accompagnement de fin de vie, où c'est compliqué parce que voilà, on est au milieu d'une pièce, il n'y a pas de fenêtre forcément, la famille est là, il n'y a pas trop de... Enfin, on n'est pas censé mourir aux urgences, sauf d'un arrêt cardiaque ou de quelque chose comme ça, mais on n'est pas censé finir sa vie aux urgences. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, en fait, on aurait voulu faire tellement plus. Enfin, moi, je me suis vue une nuit me détacher pour aider mes collègues et tenir la main d'une dame qui était en train de partir pendant 4 heures. Et c'est la seule fois en 6 ans où j'ai pu le faire parce que ce jour-là, c'était calme. Mais c'est vrai qu'on a fait ces études pour soigner, pour accompagner, pour écouter les gens, leur prodiguer des soins techniques et aussi psychologiques. Et en fait, on n'a pas le temps, quoi. Oui, les soins techniques, ils sont faits, super, mais en fait, tout le psychologique qui va avec, on l'a, mais de façon vraiment minimum, quoi. Ça a beaucoup joué, fut un temps, sur ma vie personnelle, parce que j'acceptais pas de rentrer chez moi en étant frustrée de mon travail, quoi. Il faut vraiment parler, parce qu'il y a beaucoup de burn-out chez les soignants. Ça peut amener à des suicides, des choses comme ça. Donc ouais, c'est très important d'en parler. Enfin, nous, on est quand même très solidaires. On a des cadres qui sont, voilà, très proches de nous. On est très écoutés, on a de la chance. Quand il y en a une où on voit vraiment que ça commence à pas aller du tout, on est toutes là et voilà, on a toutes craqué cet hiver, hein. Mais bon, on est une famille, quoi.
Vous regrettez le fait que l'humain soit plus au centre du soin?
Ouais, j'ai ce regret-là parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'hôpital et les soins, c'est devenu, en fait, j'irai un peu loin en disant que c'est devenu une industrie, mais c'est vraiment, faut être productif, il faut être rapide. On n'est pas censé faire ça, quoi. On n'est pas censé faire du chiffre, de toute façon, sur la santé, on ne peut pas en faire. C'est pas possible.
Il y a une notion, désormais, de rentabilité à l'hôpital?
Il y a une notion de, il faut que les patients sortent vite parce qu'il faut faire de la place pour les suivants. La fin de l'année, on n'a pas forcément le matériel adéquat parce que restriction de budget. Nous, par exemple, pour un patient psychiatrique, en fait, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la salle. Là, on a des psychiatres qui sont arrivés récemment, mais en pleine nuit, on n'est que des femmes. Enfin, on fait comment? Il y a plein de sujets. Hein. Les soignants ont plein de revendications, il faut écouter, parce que ce sera nous plus tard qui sommes dans des lits d'hôpitaux, et je ne sais pas comment on va terminer, quoi. Après, je vais peut-être me contredire, mais j'échangerai mon métier. Malgré les conditions de travail qui peuvent être un peu compliquées, mais je me vois pas faire autre chose. Les urgences, je me vois pas aller ailleurs, en fait.
Du coup, qu'est-ce qu'il y a de positif, quand même, dans ces urgences?
Alors, c'est hyper formateur, c'est l'adrénaline, c'est l'inconnu, c'est... Voilà. Après, on se dit que, quand même, on a un système français de sécurité sociale ou même l'aide médicale de l'État. Dans tous les pays, on n'a pas ça, et je pense qu'on a quand même un très bon système de santé en France qui accueille, les hauts de l'hôpital public, qui que vous soyez, d'où vous venez, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème.
La plupart des soignants rencontrés dénoncent le manque d'intérêt de la classe politique pour la sauvegarde du système de santé. Il est notamment parlant, selon eux, que ce n'ait pas été un thème prioritaire du grand débat. À la sortie des urgences, Aymeric, un patient, dit partager leur inquiétude quant à l'avenir de la santé publique.
Quand on va aux urgences, on ne peut pas ne pas avoir beaucoup d'estime et d'admiration pour le personnel qui travaille. Parce qu'à l'évidence, ils sont en sous-effectif, à l'évidence, ils sont surmenés. Et on ne peut pas ne pas quitter les urgences sans se dire que si on n'a pas été bien soigné, c'est simplement parce qu'ils sont débordés. Que s'ils le pouvaient, ils feraient infiniment mieux leur travail. Et donc, ce qui est embarrassant avec l'hôpital, c'est que très souvent, quand on critique l'hôpital, on en vient à critiquer les personnels qui y travaillent alors qu'eux font de leur mieux. L'hôpital comme institution, elle, dysfonctionne. Mais elle dysfonctionne parce que ce sont les décisions qui sont prises de haut qui visent la rentabilité ou d'autres impératifs que celles de la santé publique.
Et pour vous, est-ce que justement cette problématique santé est assez au cœur des préoccupations politiques, quel que soit le bord, hein?
Très franchement, non. Peut-on le leur reprocher? Ils ont affaire avec une équation très compliquée. Ils veulent en tout cas perdre moins d'argent. Le problème, si je puis dire, est fondamental. Ça coûte de l'argent de soigner des gens. Et donc un système de soins qui ne serait pas déficitaire, à la limite, ne ferait pas son travail. Il faudrait qu'on soit définitivement d'accord sur ce point, comme un service d'éducation nationale qui serait bénéficiaire n'aurait pas de sens. Donc la question maintenant est la suivante. Il y a une situation financière déplorable, mais il y a l'impératif de soigner des gens. Et cet impératif, il est, si je puis dire, inconditionnel. On ne va pas soigner les gens à la mesure de nos finances. Alors, on a des gestionnaires qui sont capables de soigner moins bien pour satisfaire les finances. On a des gens qui soigneront très bien, mais qui laisseront les finances aller à volo. Un grand homme politique, une grande femme politique, c'est la personne qui saura ne transiger sur aucune de ces deux exigences, même si elles sont contradictoires. Et les vrais hommes politiques sont rares. Je ne sache pas qu'on en connaisse aujourd'hui, mais ce serait précisément cette double compétence qui ferait leur prix.
Et pour vous, la santé, c'est vraiment, à proprement parler, une nécessité de service public. Vous êtes attaché à cette notion de service public ?
Oui, même s'il n'est pas, à mon sens, impératif qu'elle soit toujours gratuite. On pourrait imaginer un système qui, suivant les ressources du ménage, fasse payer. Enfin, moi, j'ai été récemment opéré dans un hôpital parisien, une opération très coûteuse, un chirurgien des plus exceptionnels. Ça m'a coûté 8 euros. J'avais tout à fait les moyens de donner 100 ou 200 euros pour une opération qui allait définitivement me tirer d'affaire. Et je l'aurais fait sans doute avec bon cœur. Je ne sais pas. En tout cas, cette gratuité qui sonne comme un principe n'est peut-être pas si inconditionnelle. En revanche, elle doit l'être pour les personnes qui n'ont pas de ressources. Et ça, il ne faut pas transiger là-dessus. Il y a des petites gens qui sont tout à fait fondés à estimer que la santé est un bien public qui doit être gratuit.
Quand soignants et patients auscultent les urgences, un grand reportage de Laura Martel, réalisation Pierre Chaffanjon. Ah.